contes de Noël et du Nouvel An de Anton Tchekhov avec Jean-Luc Porraz. Réalisation Catherine Lemire.
Une nuit d'épouvante. Pierre Lobsec pâlit, baissa la lampe et commença d'une voix émue. Un brouillard sombre, impénétrable, était suspendu sur la terre en cette nuit de Noël 1883, où je revenais de chez un ami, mort aujourd'hui, où nous avions tous assisté à une longue séance de spiritisme. Pour une raison inconnue, les petites rues que je traversais n'étaient pas éclairées, et je devais presque chercher mon chemin à tâtons. Je vivais à Moscou, où j'habitais dans le quartier de l'Assomption des Trépassés, une maison qui appartenait à un fonctionnaire nommé Cadavre. J'étais dans un des coins les plus déserts du quartier de l'Arbat. Je rentrais chez moi, et mes pensées étaient lourdes, déprimantes. Ta vie s'achemine vers son déclin. Fais ton examen de conscience. Telle était la phrase que m'avait adressée au cours de la séance l'esprit de Spinoza que nous avions réussi à appeler. Je lui demandais de répéter, et non seulement la soucoupe avait répété, mais elle avait même ajouté « Cette nuit ». Je ne crois pas au spiritisme, mais la pensée de la mort, même sous la forme d'une allusion, me plonge dans la tristesse. La mort, messieurs, est inévitable, elle est quotidienne, mais elle n'en répugne pas moins à la nature humaine. Et maintenant que m'enveloppaient des ténèbres impénétrables, glacées, que tourbillonnaient sans pitié devant mes yeux les gouttes de pluie, et que le vent gémissait par-dessus ma tête, maintenant qu'autour de moi je ne voyais âme qui vive, ni n'entendais son humain, un effroi indéfinissable et inexplicable me remplit l'âme. Et moi, l'homme sans préjugés, je me hâtais. J'avais peur de regarder en arrière ou de côté. Il me semblait que si je me retournais, je verrais à coup sûr le fantôme de la mort. Lobsec soupira convulsivement, but un verre d'eau et continua. Je ne m'étais pas débarrassé de cette terreur indéfinissable, mais que vous comprenez fort bien, lorsque, après avoir atteint le quatrième étage de la maison Cadavre, j'ouvris la porte et pénétrai dans ma chambre. Mon modeste logis était sombre. Le vent pleurait dans la cheminée dont il ébranlait le rideau, comme s'il demandait un peu de chaleur. S'il faut en croire Spinoza, et je souris, c'est au son de ce gémissement que je dois mourir cette nuit. De toute façon, c'est lugubre. Je craquai une allumette. Un coup de vent furieux courut sur le toit de la maison. Le gémissement timide se transforma en hurlement de colère. Un volet à demi arraché se mit à claquer à l'étage inférieur et le rideau de ma cheminée appela au secours avec un grincement pitoyable. Vilaine nuit pour les sans-abri, pensais-je. Mais ce n'était pas le moment de se laisser aller à de telles réflexions. Lorsque le soufre de mon allumette jeta sa lueur bleu sombre, un spectacle inattendu et terrifiant se présenta à ma vue. Que le vent n'avait-il éteint mon allumette? Peut-être alors n'aurais-je rien vu et mes cheveux ne se seraient pas dressés sur ma tête. Je poussai un cri, fis un pas vers la porte, plein de terreur, de désespoir, de stupéfaction. Je fermai les yeux. Un cercueil était posé au milieu de ma chambre. La flamme bleue n'avait pas brûlé longtemps, mais j'avais eu le temps de distinguer les contours du cercueil. J'avais vu le revêtement de brocart rose scintillant. J'avais vu la croix de galon dorée sur le couvercle. Il y a des choses, messieurs, qui se gravent dans votre mémoire, bien qu'elles ne soient restées qu'un instant devant vos yeux. Il en fut ainsi de ce cercueil. Il était destiné à un mort de taille moyenne, et en jugé par sa couleur, à une jeune fille. Le brocart précieux, les pieds, les poignets de bronze, tout disait que la défunte était riche. Je me précipitais à toutes jambes hors de la pièce, sans réfléchir, sans penser, en proie à une terreur intraduisible, et je dévalais l'escalier. Le vestibule et l'escalier étaient sombres, mes jambes se prenaient dans les pans de mon manteau, et je me demande comment je ne me suis pas rompu le cou. En me retrouvant dans la rue, je m'adossais à un réverbère humide et commençais à reprendre mes esprits. Mon cœur battait la générale, le souffle me manquait. L'une des auditrices remonta la flamme de la lampe et se rapprocha du compteur qui continua. Je n'aurais pas été surpris de trouver chez moi un incendie, ou un voleur, ou un chien enragé. Je n'aurais pas été surpris de voir le plafond s'effondrer, le plancher s'affaisser, les murs s'écrouler. Tout cela est naturel et compréhensible. Mais ce cercueil, comment avait-il pu échouer là? D'où sortait-il? Il était riche, prévu pour une femme, destiné vraisemblablement à une jeune aristocrate. Comment avait-il pu échouer dans la pauvre chambre d'un petit fonctionnaire? Était-il vide ou bien contenait-il... Qui était-elle, cette femme fortunée, décédée prématurément et qui me rendait une si étrange et terrifiante visite? Mystère angoissant. Une pensée me traversa la tête comme un éclair. S'il n'y a pas prodige, il y a crime. Je me perdais en conjectures. La porte était restée fermée pendant mon absence, et j'étais seul, avec quelques amis très proches, à connaître l'endroit où se trouvait la clé. Mais ce n'étaient pas mes amis qui avaient pu déposer ce cercueil. Peut-être encore des croque-morts l'avaient-ils apporté par erreur. Ils avaient pu se tromper, confondre les étages ou les portes, et ne l'avaient pas déposé où il fallait. Mais qui ne sait que les croque-morts de chez nous ne s'en vont pas sans avoir reçu le prix de leur peine, ou pour le moins un pourboire. Les esprits m'ont prédit ma mort, pensais-je. N'aurait-il pas déjà pris la peine de me fournir aussi le cercueil? Messieurs, je ne crois pas, et je n'ai jamais cru au spiritisme, mais devant une pareille coïncidence, même un philosophe peut tomber dans le mysticisme. Tout cela est stupide, décidai-je. Je suis poltron comme un écolier. C'était une illusion optique et rien de plus. J'étais d'humeur si sombre en arrivant chez moi. Quoi d'étonnant si mes nerfs malades m'ont fait apercevoir un cercueil. Mais oui, c'était une illusion optique. Pouvait-ce être autre chose? La pluie me cinglait le visage. Le vent froissait rageusement les pans de mon manteau, les bords de mon chapeau. J'étais transi et trempé jusqu'aux os. Il fallait m'en aller. Mais où? Retourner chez moi, c'était courir le risque de retrouver le cercueil, et ce spectacle était au-dessus de mes forces. Et puis je ne pouvais, sans avoir vu âme qui vive, sans avoir entendu aucun bruit humain, rester seul en tête-à-tête avec un cercueil où gisait peut-être un cadavre. Il y avait de quoi perdre la raison. Mais rester dans la rue, sous la pluie battante et le froid, était impossible. Je me décidai à aller passer la nuit chez mon ami De Profundis, qui s'est brûlé la cervelle par la suite, comme vous savez. Il habitait une chambre garnie chez un marchand, Monsieur Lecrane, petite rue des Maccabées. L'obsèque essuya la sueur froide qui perlait sur son visage blême, respira profondément et poursuivit. Je ne trouvais pas mon ami. Après avoir frappé et convaincu qu'il était absent, je cherchai la clé à tâtons sous le chambranle, ouvris la porte et entrai. Je me débarrassai de mon manteau trempé que je laissais tomber à terre, et ayant trouvé à tâtons le divan dans l'obscurité, je m'assis pour reprendre haleine. Il faisait sombre. Le vent chantonnait plaintivement à travers le vasistas. Le grillon faisait entendre son cri-cri monotone dans la cheminée. Les cloches du Kremlin sonnèrent la messe de minuit. Je me hâtais de craquer une allumette. Mais la lumière fut loin de me débarrasser de mon humeur sombre. Au contraire, une effroyable, une inexprimable terreur me saisit de nouveau. Je poussai un cri, je chancelai, et sans savoir ce que je faisais, je m'élançai dehors en courant. Je venais de voir dans la chambre de mon ami ce que j'avais vu dans la mienne. Un cercueil. Le cercueil de mon camarade était presque deux fois plus grand que le mien, et son revêtement brun lui donnait une couleur particulièrement sinistre. Comment avait-il échoué là? C'était une illusion optique. Désormais, il était impossible d'en douter. Toutes les chambres ne pouvaient pas contenir un cercueil. C'était évidemment le fait de mes nerfs malades. Où que j'aille maintenant, je trouverais devant mes yeux l'affreuse demeure de la mort. J'étais donc fou. Je souffrais d'une sorte de cercueillomanie et la raison de mon détraquement cérébral n'était pas longue à trouver. Il suffisait de se rappeler la séance de spiritisme et les paroles de Spinoza. Je deviens fou, pensais-je avec effroi en me prenant la tête dans les mains. Mon Dieu, que faire ? Ma tête éclatait, mes jambes vacillaient. La pluie tombait à seaux, le vent était pénétrant et j'étais sans manteau ni chapeau. Retourner les chercher dans la chambre de mon ami était impossible, c'était au-dessus de mes forces. La terreur me tenait solidement dans ses mains glacées. J'avais beau croire à une hallucination, mes cheveux se dressèrent sur ma tête et une froide sueur ruissela sur mon visage. Que fallait-il faire ? Continuait l'obsèque. Je devenais fou et risquais un refroidissement dangereux. Je me souvins par bonheur que mon excellent ami, le docteur Cimetière, frais et moulu de la faculté et avec lequel j'avais assisté cette nuit-là à la séance de spiritisme, n'habitait pas très loin de la petite rue des Maccabées. Je me hâtai chez lui. En ce temps-là, il n'était pas encore marié à une riche marchande et avait une chambre au quatrième étage de la maison du conseiller d'État Charnier. Là, mes nerfs étaient destinés à subir une nouvelle épreuve. En montant l'escalier, j'entendis un vacarme épouvantable. Quelqu'un courait à l'étage supérieur, en frappant des talons et en claquant les portes. J'entendis un cri déchirant. « Au secours ! Au secours ! Concierge !» Et presque au même instant, un sombre personnage en pelisse et haute forme bosselée dégringola l'escalier à ma rencontre. « Cimetière ! » m'écriai-je en reconnaissant mon ami. « C'est vous ! Qu'avez-vous ? » Arrivé à ma hauteur, il s'arrêta et me saisit le bras d'un geste convulsif. Il était blême. Il respirait avec peine, il frissonnait. Il roulait des yeux fous, sa poitrine haletait. « C'est vous, l'obsèque ? » demanda-t-il d'une voix sourde. « Mais est-ce bien vous ? Vous êtes pâle comme si vous sortiez du tombeau. Mais suffit, n'êtes-vous pas plutôt une hallucination ? Mon Dieu, vous êtes terrible à voir. Mais qu'avez-vous ? Vous êtes décomposé ? Oh, mon ami ! Laissez-moi reprendre mon souffle. Je suis heureux de vous voir, si c'est bien vous, en chair et en os, et non pas une illusion optique. Maudite séance de spiritisme. Elle a tellement détraqué mes nerfs que figurez-vous qu'à l'instant, en rentrant chez moi, j'ai vu dans ma chambre un cercueil. Je n'en croyais pas mes oreilles et lui demandais de répéter. Un cercueil. « Un véritable cercueil !» dit le docteur en s'asseyant sur une marche d'escalier, complètement épuisé. « Je ne suis pas poltron, mais le diable lui-même aurait pris peur si, au sortir d'une séance de spiritisme, il s'était heurté dans le noir à un cercueil. » En m'embarrassant dans mes explications, en bégayant, je lui racontais ce que j'avais vu. Nous nous regardâmes un instant, les yeux exorbités, la bouche ouverte d'étonnement. Après quoi, pour nous convaincre que nous n'étions pas des hallucinations, nous nous mîmes à nous pincer. « Nous nous faisons mal, » dit le docteur. « C'est que nous ne dormons pas et nous ne nous voyons pas en songe. » Par conséquent, les cercueils, le mien et les deux vôtres, ne sont pas des illusions optiques. Ils existent bel et bien. Et maintenant, mon ami, que devons-nous faire ? Après avoir passé toute une heure dans l'escalier glacé, à tourner et à retourner toutes sortes de suppositions, nous étions affreusement transis, et nous décidâmes de rejeter cette lâche terreur, de réveiller le garçon d'étage et de retourner avec lui dans la chambre du docteur. Ce que nous fîmes. En entrant dans la pièce, nous allumâmes une bougie, et en effet, nous vîmes le cercueil recouvert de brocart blanc avec des franges et des glands dorés. Le garçon d'étage se signa dévotement. « Nous allons savoir, à présent, » dit le docteur pâle et tremblant de tous ses membres, « si ce cercueil est vide ou s'il est habité. » Après de longues hésitations bien compréhensibles, le docteur se pencha, les dents serrées de terreur et d'attente, arracha le couvercle. Nous regardâmes à l'intérieur et le cercueil était vide. Il ne contenait pas de cadavre, mais en revanche, nous y trouvâmes la lettre suivante. Cher cimetière, tu sais que le chiffre d'affaires de mon beau-père a terriblement baissé. Il est dans les dettes jusqu'au cou. On doit venir demain ou après-demain dresser l'inventaire de son bien, et ce sera la ruine définitive pour sa famille et pour la mienne, et la perte de notre honneur auquel je tiens par-dessus tout. Nous avons décidé hier, en conseil de famille, de faire disparaître tout ce qui a de la valeur et du prix. Comme tout l'avoir de mon beau-père consiste en cercueil, tu sais qu'il est un artiste en la matière, nous avons résolu de cacher les plus précieux. Je m'adresse à toi comme à un ami. Viens à notre secours. Sauve notre bien et notre honneur. Dans l'espoir que tu nous aideras à sauvegarder notre fortune, je t'envoie, mon cher ami, un cercueil que je te demande de cacher et de conserver jusqu'à ce que je te le réclame. Sans l'aide de nos amis et connaissances, nous sommes perdus. J'espère que tu ne refuseras pas, d'autant plus qu'il ne restera pas chez toi plus d'une semaine. J'en ai envoyé un à tous ceux que je considère comme nos véritables amis, et je compte sur la générosité et la noblesse de leur âme. Ton affectionné, Jean Mâchoire. Après tout cela, je dus me faire traiter 3 mois durant pour dérangement nerveux. Notre ami, le gendre du fabricant de cercueils, sauvegarda et son honneur et sa fortune. Il tient maintenant un bureau de pompe funèbre, où il vend des stèles et des pierres tombales. Ses affaires ne sont pas brillantes, et tous les soirs, en rentrant chez moi, j'ai peur d'apercevoir à côté de mon lit une stèle de marbre blanc ou un catafalque.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия.
C'était les contes de Noël et du Nouvel An de Anton Tchekhov, avec Jean-Luc Porraz. Prise de son, montage, mixage, Noélie Pellegrin, Marie-Thérèse Ferrand. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Catherine Lemire.
Ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.
Quel souhait pour 2004? Quel meilleur des mondes? Quelle nouvelle forme? Quel nouveau langage? Un premier carnet nomade 2004 sur France Culture, en forme de carte de vœux venant de tout pays. Les voies feront escale à Bamako, Java, Barcelone, Paris, Kyoto, Venise. C'est de tous ces points du monde que les cartes nous seront envoyées. Carte de vœux, carnet nomade, vendredi 2 janvier à 15h. Le livre du jour. Anne Prosper Delaunay, L'amour de Sade. Grâce à quatre lettres récemment retrouvées, le bibliophile Pierre Leroy a reconstitué ce que fut la relation amoureuse de Sade avec sa jeune belle-sœur, Anne Prosper Delaunay, et révèle une image inédite du marquis.
D.A.F. de Sade à l'abbé de Sommane, Paris, le 15 juin 1771. Je me suis présenté, mon cher oncle, plusieurs fois chez Monsieur le duc de Brancas pour en obtenir audience. Mais je n'ai jamais été assez heureux pour le rencontrer chez lui. J'ai mis ma négociation entre les mains d'un homme qui la connaît beaucoup et qui m'a promis réponse dans la semaine. Je vous la ferai passer aussitôt. Je suis trop heureux, mon cher oncle, de pouvoir faire tout ce qui peut vous être agréable et je ne me plaindrai jamais que de la rareté des occasions que vous m'en fournissez. Vous avez donc reçu une épître de la présidente. N'était-elle pas un peu froide ? Vous croyez peut-être qu'au milieu de ma prospérité et de mon extrême sagesse, la chère dame en est plus contente de moi. Point du tout. D'autres chimères, d'autres chagrins la tracassent aujourd'hui. Mais je veux, du fait, amuser un peu votre solitude. Du milieu de cette famille, aussi vertueuse qu'épaisse, est sorti un ange céleste qui, par tous les agréments physiques et moraux qui la renferment, apporter le méchant public à de furieux doutes sur la vertu de la présidente. On n'a jamais voulu, ni pu croire, que le magistrat Cordier ait eu la moindre part à l'existence de cette divinité qui, véritablement, semblait absolument dégagée de l'informe et lourde matière dont il avait embrouillé les organes du reste de sa progéniture. Lors de mon retour à Paris, on me fait voir cette délicieuse belle-sœur que je connaissais à peine. Elle était pour lors âgée de 17 ans. La liberté qu'on nous laisse donne bientôt lieu à d'intimes communications qui m'attirent la confiance et l'amitié de cette jeune personne. Les parties se présentent, elle les refuse. On ne tarde pas à m'accuser de singularité. On va jusqu'à me soupçonner des projets. Un inceste à moi, mon cher oncle. Convenez qu'on ne me rendait guère justice. On éloigne ma sœur, je commence moi-même à voyager pour les convaincre de mon innocence. On emploie pendant ce temps-là tout ce qu'il est possible d'imaginer pour la décider au mariage. Rien n'y fait. Enfin, après 2 ans de persécution, de tracasserie, dont mon intérêt a fini par se trouver fort mal, on a abandonné la jeune personne à elle-même et elle est maintenant dans un couvent, y ayant toute la liberté qu'elle veut. Nous allons en faire une chanoinesse. Et son habitation se rapprochant de Lyon par cet état, il ne serait pas impossible que vous la vissiez un jour à la fontaine de Vaucluse. La bonne Madame de Sade, moins soupçonneuse que tous ces gens-là, n'a vu, comme vous auriez fait, mon cher oncle, qu'un sentiment simple et honnête dans cette liaison. Elle aime sa sœur, la voit souvent, l'a chez elle le plus qu'elle peut, et se fera sûrement un plaisir, quand elle aura un état, de la voir dans ses terres avec elle. Réjouissez-vous-en d'avance, mon cher oncle, car c'est une créature charmante. Pour vous en donner une idée, je vous dirai que c'est le second tome de Milie de Jarinthe. L'uniformité de leur caractère, malgré la différence d'âge, les a déjà liés à tel point qu'elles s'aiment de tout leur cœur et se voient même le plus qu'elles peuvent lorsqu'elles sont à Paris. Ah ça, voyez un peu, mon cher oncle, si je ne suis pas l'être le plus malheureux qu'il y eut au monde. Toujours soupçonné, que d'injustice dans tout ceci de la part des parents, que de vertu de mon côté et de candeur de celui de Madame de Sade. Telle est l'origine de mes craintes sur les nuages que je soupçonne dans les lettres que vous écrit la présidente. et j'ai voulu vous prévenir afin qu'étant au fait, vous puissiez mettre au jour toute l'éminente vertu de votre neveu.
Cet extrait d'une lettre de Sade, tirée de l'ouvrage Anne Prosper Delaunay, publié chez Gallimard, est lu par Emmanuel Crady. Réalisation, Guillaume Rialan, Éric Boisset, Jean-Claude Loiseau.